Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Villeroy de Gallo.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le gouverneur de la Banque de France et vous l'êtes d'ailleurs depuis 2015 et encore pendant un mois. Vous avez beaucoup de recul désormais sur l'économie française. On va y revenir et rien ne va plus, on peut le dire, pour l'économie française. L'INSEE a donc confirmé ce que tout le monde avait déjà comme intuition. L'économie française est littéralement à l'arrêt. Croissance nulle pour les premiers mois de l'année. Et c'est aujourd'hui que vous vous adressez au président puisque vous lui adressez votre dernier bulletin de santé de l'économie française, la lettre annuelle au président de la République. On va y revenir, mais justement, comment ça va, docteur, en fait ?
Alors, c'est surtout l'incertitude, Apolline de Malherbe. Moi, je ne dirais pas que rien ne va plus. Je dirais qu'aujourd'hui, on est face à un choc sans précédent. Ce conflit en Iran, la fermeture du détroit d'Ormuz, la montée, évidemment, du prix de l'énergie. Et nous ne savons pas quels vont être exactement les effets économiques. Parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer ce conflit. Ça dépend de la stratégie américaine, notamment, qui est très imprévisible. Et donc, nous avons publié 3 scénarios différents au mois de mars. Les effets sont tous dans le même sens, malheureusement, c'est-à-dire plus d'inflation, moins de croissance.
Mais à l'ampleur, plus ou moins grand niveau.
Exactement. L'ampleur des effets dépend du scénario dans lequel on se trouvera.
C'est quoi ? Au mieux, c'est quoi ?
Absolument.
En termes de croissance.
D'abord, ce que nous avons dit au mois de mars, c'est que je redis ce matin, c'est qu'il ne faut pas tout parier sur le scénario le plus favorable, le scénario qu'on avait appelé de base. Il y a aussi un scénario défavorable, puis un scénario très défavorable. Au pire, pour répondre à votre question, on a d'abord une poussée d'inflation en 2026, cette année. Alors l'inflation, selon les scénarios, se situerait entre un peu moins de 2% en moyenne annuelle ou plus de 3%. Mais ensuite, l'inflation reviendrait vers la cible de 2%.
Quand vous dites ensuite, ça veut dire après un an ?
Ça veut dire 2027-2028. La durée exacte dépend du scénario dans lequel on se trouve. Ça dépend à combien monte le prix du pétrole et combien de temps ça dure.
Mais alors attendez, je vous arrête un instant. Déjà, ça veut dire que le plancher est plus haut que la prévision que vous en aviez faite, puisque initialement, on avait parié sur 1,8% d'inflation, me semble-t-il, pour l'année. Et vous dites que ce sera au moins 2.
Non, on avait moins que ça sur la France. Parce que c'est un des atouts de la France. Il faut quand même être lucide aussi sur notre force. On en a, bien sûr. C'est que notre inflation est basse. C'est même la plus basse de la zone euro. Donc on partait d'une inflation qui était autour de 1. On devrait aller vers 2% cette année. Peut-être plus si on est dans les scénarios défavorables. Mais ensuite, on revient vers les 2%. Puis l'autre question, c'est la croissance. Alors, dans tous les scénarios que nous publions, on garderait quand même une croissance positive cette année. Alors, on est entre 0,9 dans le cas le plus favorable ou 0,3 dans le cas le plus défavorable. On verra. Et la France échapperait à la récession. Donc ça, c'est des moins mauvaises nouvelles. Maintenant, on va pas se raconter l'histoire. Ce choc qui arrive de l'extérieur, c'est évidemment un élément négatif, pas seulement pour l'économie française, pour l'économie européenne et l'économie mondiale.
Vous dites le mot choc, on va y revenir, choc pétrolier ou non, qu'est-ce qu'il faut en entendre ? Mais je m'arrête un instant sur cette prévision de croissance. Je rappelle que le budget sous lequel nous sommes aujourd'hui est un budget qui avait été fait avec une prévision de croissance de 0, déjà de 1, qui a été rebaissé à 0,9. Et au fond, ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, c'est que 0,9, c'est le scénario le plus optimiste.
C'est probablement le scénario favorable. Je crois qu'il est trop tôt pour dire ce que ça va donner sur le budget. Vous savez que l'objectif du gouvernement, c'est un déficit de 5% cette année. C'est pas un effort énorme par rapport à l'année dernière, puisqu'on a terminé à 5,1.
Mais pardon, c'était déjà pas un effort énorme, mais dans un contexte où on espérait une croissance...
Voilà. Je crois qu'il faut tenir ce 5%. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé des mesures d'économie sur d'autres dépenses, moins prioritaires. Et puis, si vous me permettez de prolonger sur le budget, ça fait partie des inquiétudes des Français.
Et ce sont les discussions aujourd'hui des politiques.
La dette qui est beaucoup trop élevée. Il faut qu'on ait l'objectif de revenir à 3% de déficit d'ici 2029. C'est notre engagement européen, mais surtout, ce chiffre de 3%, c'est pas magique. C'est celui qui nous permettrait enfin de diminuer le poids de la dette par rapport au PIB, par rapport à la taille de l'économie française.
Mais est-ce que c'est pas un vœu pieux ?
Je ne crois pas, je crois que c'est une nécessité. Et alors quand nous regardons plus largement ce que nous faisons dans cette lettre au président de la République, la France a plus de déficit que ses voisins, plus de dettes. Pourquoi ? Parce qu'elle a plus de dépenses publiques. Nous avons à peu près le même modèle social européen que nos voisins. Moi, j'y crois. C'est un bon modèle social. Simplement, il nous coûte beaucoup plus cher que les autres. Donc, il faut faire un effort sur l'efficacité de toutes nos dépenses.
Et ça veut dire qu'il va falloir aussi faire quelques sacrifices.
Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. En tout cas, nous ne pouvons pas tout financer. Et regardons nos voisins européens. Vous savez, ils ont les mêmes politiques que nous et souvent, ils arrivent à des meilleurs résultats en dépensant moins. Ça, c'est très pratique. C'est pas politique ou idéologique.
Vous avez parlé d'un choc. Vous avez dit plusieurs fois le mot choc. Est-ce que vous diriez aussi choc pétrolier?
Alors, le choc pétrolier, ça renvoie pour les vénérables de ma génération, Apolline, ça renvoie aux années 70, quand on avait connu en 1973, puis en 1979, de hausses très fortes et très durables des prix du pétrole. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Évidemment, plus les choses se prolongent, plus on se rapproche d'un choc pétrolier. Mais tout va dépendre de la durée du conflit et donc de variables politiques et militaires.
On se rapproche d'un choc pétrolier, c'est-à-dire qu'effectivement, on est aujourd'hui au 66e jour de guerre. Michel-Edouard Leclerc, par exemple, dit c'est pas de sitôt qu'on retrouvera les prix d'avant. Est-ce qu'on peut même imaginer qu'au fond, les prix du carburant actuel puissent devenir le nouveau normal?
Je vais vous dire avec simplicité, je ne sais pas.
Et je crois que mais à quoi vous servez?
Non, si vous savez, Apolline de Malherbe, prédire l'avenir de façon certaine dans ce monde où nous vivons, vous êtes extrêmement forte.
Non.
Ce que je sais.
Non.
C'est pour ça que nous publions trois scénarios différents. Et dans au moins deux des trois scénarios, le prix du pétrole rebaisse d'ici la fin de l'année et pour l'année prochaine. On va voir. Je crois néanmoins que de toute façon, ça c'est un message très important de notre part, faut évidemment accélérer la transition énergétique.
C'est ça la réponse.
Nous ne pouvons pas vivre avec tous les 5 ans, tous les 10 ans, une crise au Moyen-Orient ou une crise pétrolière liée à l'invasion de l'Ukraine qui nous prend, en otage notre économie. Donc il faut réduire notre dépendance. Ça veut dire les énergies propres. C'est d'ailleurs bon pour le climat. Il se trouve que la France est plutôt en avance là-dessus grâce à l'énergie nucléaire. Mais il faut évidemment aller plus loin dans cette direction. C'est au-delà des réponses de très court terme, il faut se donner des caps.
Alors il y a des caps et il y a la question du long terme. Mais dans le court terme, quand on regarde nos voisins, l'Allemagne par exemple, à partir d'aujourd'hui, baisse de 17 centimes d'euros par litre après l'Espagne. Ça sera au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Un coup de pouce que les Allemands font, qui est estimé à 1,6 milliard d'euros. Et ici, en France, on espère juste que Total va faire le boulot.
Oui, alors là, je crois que c'est un des sujets où il faut pas forcément aller chercher l'inspiration chez nos voisins. D'abord parce que d'expérience, ça n'est pas des mesures très efficaces, y compris pour une raison très simple, c'est que ça pousse, ça encourage la demande de carburant et donc ça contribue à la hausse des prix. Ça fait le contraire de ce qu'on voudrait. Et puis, il se trouve que nos voisins ont deux différences avec la France. Ils ont plus d'inflation, on le disait tout à l'heure. La France est un peu mieux protégée par son énergie nucléaire. Et puis deuxièmement, ils ont plus de moyens budgétaires. Nous n'avons plus d'argent pour financer des mesures générales. Donc il faut prendre des mesures ciblées, temporaires, sur les
rouleurs. François Villeroy de Galhau, on peut le tourner dans tous les sens. On n'a plus les moyens.
On n'a plus les moyens, en tout cas, de prendre des mesures générales qui, par ailleurs, sont assez inefficaces.
Toutefois, il y avait des mesures efficaces, on devrait de toute façon pas les moyens de les prendre.
Ah, alors, le gouvernement a pris des mesures ciblées sur ce qu'on appelle les gros rouleurs, certaines professions. Je crois que c'est important aussi qu'elles restent temporaires. Qu'est-ce qui s'est passé après 2022, le précédent choc lors de l'invasion de l'Ukraine? On a pris des mesures, puis on n'a pas réussi à retirer ces mesures favorables quand le prix du pétrole a baissé. Alors ça coûte beaucoup trop cher.
Total, à qui le gouvernement demande de faire plus, de continuer, je cite, un plafonnement généreux. C'est soit ça, soit une taxation de leurs super profits, en quelque sorte. Est-ce que c'est ça l'équation aujourd'hui?
Oui, alors la Banque de France n'est pas dans la discussion avec Total. J'ai d'ailleurs vu que l'entreprise avait pris un certain nombre d'engagements sur le diesel à l'occasion des ponts. Bon, je crois que ça, c'est vraiment une négociation. On a la chance d'avoir une grande entreprise énergétique française.
Mais vous vous étiez exprimé sur la question justement de la taxation, des taxations exceptionnelles qui sont de moins en moins exceptionnelles puisqu'elles sont reconduites d'une année sur l'autre. Est-ce qu'il faut pas hésiter effectivement à mettre à contribution des très grosses entreprises quand on voit les profits de Total?
Je crois que c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Si ça devait être mis en place, c'est de la même façon que je le disais tout à l'heure, ciblé sur certains profits liés à la crise énergétique et temporaire quand cette crise énergétique sera résolue.
Croissance, inflation, choc pétrolier ou non, trop tôt pour le dire. Emploi, il y a un ralentissement aussi des promesses d'embauche. Quand même, le scénario, je veux bien qu'il y ait des scénarios moins pessimistes que les autres, mais il y en a très peu qui soient vraiment optimistes.
Je me méfie toujours des mots optimistes et pessimistes.
Alors, dites-les vôtres.
Ce que nous essayons d'être, c'est d'être lucides. Dans cette lettre au président de la République, on fait une photo sur 15 ans de l'économie française. C'est très important, à côté de ce que nous venons de dire sur l'urgence, parce qu'il faut aussi prendre un peu de recul. Nous disons, au-delà de l'urgence, plus que jamais, élargir l'horizon, faire un pas de côté pour faire un bilan de santé aussi objectif et complet que possible de l'économie française. Or, il se trouve justement sur l'emploi, depuis 15 ans, ça c'est un vrai progrès que nous avons fait collectivement. Il y a aujourd'hui un taux de chômage qui reste trop élevé, hein, il est entre 7,5 et 8%.
Et il remonte.
Légèrement. Un peu. Mais dans les précédentes crises, Apolline de Malherbe, on avait un taux de chômage qui était supérieur à 10%. Et je ne sais pas si vous savez, nous avons nous-mêmes été surpris par ce chiffre, combien d'emplois l'économie française a créé depuis 2010, parce qu'on a pris ce recul sur 15 ans, près de 4 millions d'emplois nets, les créations moins les suppressions, 3,9 exactement. Le taux de chômage a beaucoup baissé, le taux d'emploi, c'est-à-dire la part de la population au travail a monté, ça c'est des choses qui vont dans le très bon sens. Et l'emploi résiste plutôt bien aujourd'hui au ralentissement de la conjoncture.
Avec le recul, est-ce que vous estimez que la France a fait effectivement les changements qu'elle devait faire sur ses structures, son économie, le travail dont on dit en permanence qu'il ne paye pas suffisamment? Est-ce que ça, ce sont des choix politiques qui n'ont pas été faits?
Alors, pas assez. Et je précise, quand on regarde depuis 2010, nous enjambons les cycles politiques, il y a eu divers présidents, divers gouvernements, il ne s'agit pas de distribuer des bons ou mauvais points à tel ou tel. Mais ça correspond à un cycle économique, 2010 c'est le début du temps des crises. En ultra résumé, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que sur la croissance, à chaque fois on se compare aux pays européens, la performance de la France, elle se juge en comparaison aux autres qui sont dans la même situation. Sur la croissance, nous avons une position intermédiaire, c'est-à-dire que nous avons fait comme la moyenne de la zone euro. Ni plus mal, ni mieux. Il y a eu un point positif, c'est ce que nous disions à l'instant sur l'emploi, puis un point négatif où clairement on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est les finances publiques. C'est-à-dire que nous avons beaucoup trop de déficits et de dettes comparés à nos voisins.
Quand vous regardez ce qui s'est passé en ce week-end de pont autour du 1er mai, est-ce que c'est pas le symptôme d'une sorte de cacophonie ou de difficulté de la France à prendre des décisions? On a d'un côté effectivement ouvert l'idée que finalement on pouvait travailler le 1er mai. Le Premier ministre lui-même a presque encouragé l'illégalité, puisqu'il a encouragé certains boulangers à ouvrir, à travailler, alors que des contrôleurs disaient bah non, c'est illégal, à faire travailler leurs salariés. Est-ce que c'est pas le problème, le symptôme de ces difficultés à trancher pour la France?
Vous me permettez une note personnelle, Apolline de Malherbe. Je crois que c'est surtout le symptôme du fait que notre débat se met sur de multiples polémiques de l'instant.
Vous, avec le recul des 15 ans, vous vous dites, en fait, histoire du 1er mai, des fleuristes et des boulangers...
C'est pas la question décisive pour l'avenir de l'économie française. Or, on le disait à l'instant, sur le travail et sur l'emploi, nous avons fait des progrès. Il y a eu le pacte...
Mais est-ce que c'est pas parce que vous bottez en touche?
Non, c'est pas du tout pour botter en touche. Mais que les fleuristes ou les boulangers travaillent le 1er mai, dans des conditions clarifiées... Très bien, mais c'est pas ça qui va faire une immense différence pour l'économie française.
Mais vous parlez d'incertitude. Vous avez commencé avec le mot d'incertitude disant que le plus difficile pour pour tous ceux qui travaillent en France, c'est l'incertitude. Quand on voit effectivement qu'en fait on ouvre sans être sûr qu'on a le droit d'ouvrir, est-ce que c'est pas véritablement le symptôme de cette incertitude?
Bien sûr, mais ce que je dis, c'est que c'est un problème relativement limité. Tout ce que nous pourrions faire, par exemple, pour développer encore l'apprentissage ou pour améliorer l'efficacité des dépenses d'éducation et de formation professionnelle. Ça, c'est un élément assez important de notre bilan. C'est que quand on se compare aux autres, nous dépensons à peu près autant sur l'éducation et la formation professionnelle, mais l'efficacité de ces dépenses est plutôt moins bonne qu'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui changerait vraiment l'économie française. Ce qui a été fait sur un certain nombre de réglementations du travail, la loi El Khomri en 2016, les ordonnances Pénicaud en 2017, a beaucoup réduit l'incertitude justement, et ça je crois que ça a facilité l'emploi, donné envie aux entreprises d'embaucher. Donc nous avons fait des progrès. Encore une fois, la question du 1er mai, elle est très franco-française, elle est de très court terme, pourquoi pas, mais élargissons l'horizon et puis regardons les meilleures solutions de nos voisins.
Quels sont vos regrets? En avez-vous? Dans un mois, vous quitterez cette fonction. Est-ce que pas forcément de vos outils ou non, mais sur le regard que vous avez porté jour après jour pendant 15 ans sur l'économie française?
Bon, d'abord, je crois qu'il y a une satisfaction, c'est l'inflation. Il se trouve que c'est la Banque de France qui
est
en charge. Avec la Banque Centrale Européenne, nous avons eu des très bons résultats sur l'inflation. Et ça a aidé.
Avec quand même un moment de souffrance.
Ah, bien sûr. Ça, on ne peut pas totalement faire abstraction des conditions extérieures. Quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça a été inflationniste. Mais, en moyenne, l'inflation, depuis 15 ans, elle a été un peu inférieure à 2% en France. Au passage, ça a aidé le pouvoir d'achat. Alors, je vais peut-être surprendre ceux et celles qui nous écoutent et nous
mais
regardent.
Mais le pouvoir d'achat est en hausse très légère.
Le pouvoir d'achat, depuis 15 ans, a augmenté en moyenne par Français de 12%. C'est pas mal, c'est moins qu'avant. On pourrait faire encore mieux si on accélérait la croissance. Mais ça, je crois que sur l'inflation, c'est un point positif. Mon regret, c'est que notre débat ne regarde pas assez les meilleures solutions de nos voisins. Vous savez, on est très frappé dans ce bilan qu'il y a des pays européens. On dit l'Europe est en retard, est en train de se faire distancer par les États-Unis. Il y a au moins trois pays européens très proches de nous, qui ont un modèle de société qui ressemble, c'est la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, qui sur la plupart des sujets ont des bien meilleurs résultats.
Donc, et pourquoi?
On peut avoir le modèle social européen, être innovant. Je crois que c'est des pays qui ont plus de consensus social. C'est des pays qui ont des entreprises plus innovantes parce qu'elles ont plus de fonds propres. C'est des pays aussi qui ont de l'épargne retraite privée en complément des retraites publiques. Ça diminue la charge sur les finances publiques. Et donc, je crois que c'est des pays que nous aurions intérêt à regarder sur leurs diverses solutions.
Qu'est-ce que vous direz à votre successeur? Je le rappelle, effectivement, dans un mois, vous passerez le relais, vraisemblablement, à l'actuel secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, qui pourrait être votre successeur. Qu'est-ce que vous direz à votre successeur?
Je dirais que d'abord, c'est une magnifique mission que j'ai eu l'honneur d'exercer avec les 9000 hommes et femmes de la Banque de France. Je lui dirais d'être évidemment très très sensible à l'indépendance. Pourquoi? Parce que tout ce constat que nous publions aujourd'hui, il est objectif, il est là pour nourrir le débat, parce que la Banque de France regarde les faits et essaye d'apporter un constat avec lucidité. Nous ne roulons pour personne. Hein, et je lui dirais évidemment de continuer à exercer notre mission contre l'inflation, pour la stabilité de la monnaie. Dans l'incertitude dont on parlait, ça c'est un élément très important que nous apportons aux Français. Ils soutiennent l'euro. Et puis de continuer à plaider pour un certain nombre de réformes, parce que notre pays peut croître plus. Moi j'y crois, Apolline de
Malherbe. Oui, je vois.
Ça c'est très important.
Je vois, vous ne voulez ni être.
Et je crois que nous avons dans ce monde dangereux, incertain, nous avons, nous Français, nous Européens, beaucoup plus de cartes économiques en main
que nous
ne pensons.
Vous ne voulez jamais être réduit à la question de l'arène politique. Vous venez de citer le mot d'indépendance.
C'est pas que je suis réduit, c'est que nous n'y sommes pas.
Mais ce n'est pas ce que dit Marine Le Pen, qui le 25 février dernier disait, je la cite, « C'est une forme de violence institutionnelle que de verrouiller les institutions au point de manœuvrer avec Monsieur Villeroy de Gallo. Ce n'est pas anodin. » Elle sous-entend que le fait que vous partiez et que vous laissiez votre poste juste avant l'été, c'est une manière, au fond, pour Emmanuel Macron, de nommer votre successeur.
Si
qu'est-ce que vous répondez
si
à
vous
ça?
Si vous me permettez, Apolline de Malherbe, je vous arrête tout de suite. D'abord, je ne commande jamais les propos de responsables politiques, donc je ne vais pas commencer ce matin.
Elle s'adresse
mais
à vous.
Me concernant, personne ne m'a demandé de quitter mes fonctions. Et si on l'avait fait, j'aurais refusé. J'ai trop de respect pour l'indépendance. Je pars pour prendre une mission à laquelle on m'a appelé, c'est la présidence de la Fondation Apprenti d'Auteuil, qui est une œuvre magnifique en faveur de la jeunesse en difficulté. C'est pour cette raison-là, et évidemment, je le fais en homme libre, je demande qu'on respecte cette décision.
Voilà votre réponse ce matin. Merci beaucoup François Villeroy de Gallo d'avoir répondu à mes questions. Vous qui êtes donc le gouverneur de la Banque de France. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.